Bienvenue sur Micro Standard.
Tiens, bon, là-bas.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Tiens, bon, là-bas.
Zona.
Rancard.
Bazar.
D'après le dicton, c'est la dose qui fait le poison. La science ajoute, c'est l'échec de l'arrêt qui fait l'addiction.
Alcool, tabac, jeux, drogue, shopping, radio, chirurgie esthétique, botox, chocolat, ménage, travail, café. Attention, vous allez vite devenir accro à notre émission. Mais n'ayez crainte, ça ne sera que passager. Le temps d'évoquer avec vous différentes facettes des addictions à travers des témoignages, des chroniques, des poèmes et la rencontre avec l'équipe soignante du XAPA, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de l'hôpital de Morlaix.
Ouais, bonjour, je dois faire un micro-trottoir comme thème l'addiction. Alors, je peux vous poser des questions? Alors, pour vous, que signifie le mot addiction?
Être dépendant à la vie, à tout, en ouais. général, comme une drogue.
Ouais.
On se passe son passé. On est toujours obligé d'être dépendant à certaines choses.
L'addiction, c'est une dépendance à un milieu, à des substances.
Ouais, c'est qu'on est accro à quelque chose et qu'on a du mal à s'en passer.
Ouais.
Voilà.
Bah, être à l'addiction, c'est ne plus se passer d'alcool.
Ne plus pouvoir, quoi.
Ne plus pouvoir se passer de produits illicites, quoi.
Alors, le mot addiction veut dire, comment expliquer ça, qu'une personne a commencé à se droguer ou se drogue.
Ouais. Alors, pour vous, est-ce un problème?
Du tout.
Non.
Ah non, être accro à travailler, c'est très bien. Tout comme tout, faut bien travailler, faut bien passer par là. Donc, autant être accro et dans une bonne condition mentale, plus qu'en souffrir, être dégoûté.
Donc l'addiction heureuse, quoi.
Très bien, oui.
Oui, c'est un problème suivant l'addiction, sur quoi elle porte. Si elle dépend de mal ou ça peut vraiment être un danger. Ben.
Ouais, un danger.
Un danger de société. Ben.
Ouais.
Oui, forcément.
Ouais.
Ça dépend à quoi après, mais généralement, oui, quand il y a une situation de manque et qu'on ne peut pas vraiment se sentir bien sans cet apport.
Ouais, bah ouais, là. Là, c'est pas bon.
C'est presque une maladie, on pourrait dire.
Ouais, quasiment, ouais.
Pour moi, oui, c'est un problème.
Ah ouais, pour toi c'est un problème.
Ah ouais. Alors moi je me soigne donc.
Ouais.
Je fais tout pour arrêter. Il y a quelques rechutes, mais ça c'est stabilisant quoi.
Ouais. Tu t'en sors mieux maintenant.
Je m'en sors mieux.
Un petit problème on va dire.
Un petit problème.
Ouais.
Petit. Alors accro ou pas accro?
Après oui, ça dépend à quoi.
Ouais.
À tout. On peut être accro à tout, comme on peut être accro à rien. Mmh. Ça dépend des conditions.
Non, moi je touche à tout et je m'intéresse à beaucoup de choses, mais bon, je suis vraiment pas porté, notamment sur tout ce qui est numérique, tout ce qui est
les nouvelles technologies.
Non,
pas du tout.
Non, pas du tout.
J'ai été accro, mais je ne suis plus accro.
Que signifie le mot addiction? Ouais, mais non. Bon, allez, on refait.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit comme moi, ma chérie.
Ce matin, je me réveille. Premier réflexe, c'est cette machine. 5 cuillerées à café, 1 litre d'eau dans le réservoir, et dans une minute, il sera prêt le fameux café. J'aurai ma dose, éveil, sortie de somnolence. La journée démarre et durant 17 heures environ, je me relance. Et hop, un petit jus et c'est reparti. Même le soir, devant la télé, une tasse, sinon au lit. Au bout d'un certain temps, je commence à m'énerver, à la limite de la crise de nerfs. Perte de sommeil, trouble psychiatrique, oui, mais sans ma dose, je ne fais plus rien.
Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur.
Docteur, aidez-moi.
C'est ma 40e opération de chirurgie esthétique en 3 ans. Et ça ne va toujours pas. Je ne compte même plus les injections de Botox. Je ne me reconnais plus. Je suis dans un engrenage fou. Aidez-moi à arrêter cette spirale infernale. Je n'y arrive pas.
Tout près de toi, loin de lui, j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Ah, les chocolats, je n'y résiste pas. En tablette, en pâte à tartiner, de toutes les formes, à tous les parfums, je veux tous les manger. Une dose au palais et mon moral est reboosté. Ah, mon chocolat, tu es le roi.
Alors, Denis, tu peux nous raconter l'histoire de Den Titi Patayoun ?
Mais oui, bien sûr, Cédric. Je vais donc vous narrer l'histoire de Den Titi Patayoun. À la sortie du lycée, Den Titi Patayoun se demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire des 2 heures à écouler entre le moment de la fin des cours, 16h, et le passage du ramassage scolaire à 18h. Les 4 grands copains, 15 ans tout juste, eurent l'idée de casser une petite graine avec le peu d'argent qu'ils avaient en poche. « Si on achetait un pack de bière, » dit Youn. « Moi, j'aime le vin, » dit Titi. « Moi, je préfère un peu de rhum, » dit Dunn. « Un petit Ricard ne ferait pas de mal, » dit Pat. Tous les 4 se concertèrent et finalement, ils optèrent pour une bouteille de bière et 1 litre de vin blanc. Ensuite, ils se dirigèrent vers la boulangerie pour acheter un peu de pain. « Avez-vous entendu parler du binge-drinking, les amis ? Cela consiste à boire un maximum d'alcool en un minimum de temps. »« Ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas être sous. Et si les profs nous tombent dessus, on risque d'être renvoyés du lycée. Par contre, je fumerais bien un peu de cannabis. »« Tu en as ?» dit Titi. « Non, dit-il, mais j'ai simplement une gauloise à t'offrir. »« Bon, moi j'en fume régulièrement. Je vous en vends si vous êtes intéressés. » Je peux vous en donner, vous paierez la prochaine fois. Ceci est une histoire bien banale qui a conduit quelques personnes à l'hôpital ou en prison. Alors attention à ce que vous consommez.
Là, cela vous évoque quoi ?
Bonsoir Géraldine. En effet, je vais vous parler d'une addiction coûteuse qui est celle des jeux d'argent et commencer par quelques chiffres effarants. En France, en 1960, le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu était de 98 millions d'euros. En 2006, de 37 milliards d'euros. Le bénéfice annuel est de 4,7 milliards d'euros et près de 35 000 personnes sont interdites de jeu en France. Le jeu a été légalisé avec la création de la loterie royale au XVIIe siècle. La prévalence du jeu excessif en France est estimée à 400 000 joueurs à risque et 200 000 joueurs excessifs. Et tenez-vous bien, 20% des joueurs ont commis des délits, abus de confiance, contrefaçon de chèque. Mais les jeux d'argent et de hasard, c'est aussi plus de 100 000 personnes en emploi direct et une participation au développement de nombreux secteurs économiques, culturels et commerciaux, notamment la filière cheval pour le PMU, l'animation et la vie culturelle des stations thermales pour les casinos, le sport pour la Française des Jeux et contribue d'une manière non négligeable aux finances de l'État, 6 milliards d'euros, et aux finances de 200 communes. Il redistribue de l'argent aux milliers de joueurs gagnants et également à différentes organisations, structures et associations.
Mais alors Noëlla, d'où vient l'origine des jeux d'argent et de bazar ?
Eh bien, côté historique, les archéologues ont retrouvé les premiers objets liés à la pratique des jeux d'argent dans les vestiges laissés par l'ancienne Babylone 3000 ans avant Jésus-Christ, la Chine ancienne 2300 ans avant Jésus-Christ, ainsi qu'en Inde, en Égypte et à Rome. Voici l'origine de quelques jeux. Le blackjack et le poker, par exemple, trouvent leur source dans les premiers jeux de cartes pratiqués en Chine avec des feuilles de papier. Les plus anciens sont les jeux de dés en os et ivoire. Le poker date du XVIIe siècle, si l'on fait remonter son origine au jeu perse le naze, où le bluff est un élément décisif. Mais c'est en 1800 que sa version moderne se développe en Nouvelle-Orléans sur les bateaux remontant le Mississippi. La roulette, ce sont les Français qui en sont à l'origine au XIXe siècle, et les Américains qui l'ont adaptée en créant la roulette à double zéro ou roulette américaine. Les machines à sous apparaissent en 1898, inventées par Charles-Auguste Fay. Et c'est au XXe siècle que se développent en France les casinos, le PMU Paris Mutuel Urbain, créé en 1931, et la Loterie Nationale, refondée en 1933. Ce sont les trois opérateurs de jeux qui perdurent actuellement en France, dont l'État est le premier bénéficiaire.
Tu peux nous parler du joueur pathologique et comment on peut le reconnaître ?
Alors, le jeu est une préoccupation permanente qui prend une place centrale dans sa vie. Le joueur, malgré les résolutions prises, finit par prendre trop de risques. Il fait des efforts répétés pour diminuer sa pratique sans y parvenir. Il retourne jouer pour se refaire, c'est-à-dire gagner l'argent perdu au jeu. Le jeu devient un moyen pour fuir les problèmes. Le joueur cache le fait qu'il joue et qu'il joue beaucoup. Lorsqu'il a des difficultés financières dues au jeu, le joueur cherche une solution pour financer sa pratique. Emprunt, voire vol, détournement d'argent. Lorsque le jeu devient excessif, on retrouve le caractère compulsif de la conduite, la personne perd progressivement sa liberté et se sent petit à petit obligée de jouer. Le jeu pathologique présente des points communs avec d'autres troubles liés à l'utilisation des substances psychoactives comme l'alcool, le tabac, les substances illicites ou certains médicaments ou à d'autres addictions comme les achats compulsifs, les troubles du comportement alimentaire, l'addiction au sport, dépendance sexuelle et affective, dépendance sectaire. L'existence des joueurs pathologiques a été décrite dès 1929 et dans la littérature scientifique fin des années 1980. Et surtout, il faut savoir que les addictions associées chez les joueurs pathologiques sont grandes.
Une addition d'addiction, en quelque sorte ?
Oui, tabac, alcool, drogue, la dépendance au tabac est celle la plus fréquemment retrouvée chez les joueurs pathologiques. Les autres addictions, alcool, drogue illicite, précèdent généralement le début du jeu pathologique, surtout chez les hommes. Les joueurs pathologiques ayant des antécédents de dépendance aux drogues ont le plus souvent un trouble lié au jeu pathologique plus sévère. Les joueurs pathologiques ont fréquemment des troubles psychiatriques associés. Le plus souvent, il s'agit d'une association avec des troubles de l'humeur, des troubles anxieux ou des troubles de la personnalité.
Au fait, Noëlla, as-tu quelques exemples de célébrités addictes aux jeux d'argent ?
Deux exemples célèbres addictes aux jeux d'argent. Françoise Sagan, c'est à peine majeure pour fêter ses 21 ans qu'elle entre pour la première fois dans le cercle envoûtant d'un casino. Quand elle se verra refuser l'accès de ses casinos français, elle ira à Londres, au Croxford. Et Philippe Bouvard, il a commencé à 20 ans et a écrit un livre sur le monde des casinos, son titre « Tout sur le jeu, les joueurs et les casinos ». Mais pour terminer, il faut bien comprendre que le jeu pathologique est une maladie et non une faiblesse, un vice ou un manque de volonté. Chers auditeurs, bonne fin de soirée.
Démo MOTS, démo MAUX. Les mots s'immiscent dans ma tête, me pèsent et m'oppressent sans crier garde. Quel pêle-mêle. Les mots s'entrechoquent, mon cerveau est addict de mots. Il aime, adore, semble vénérer cette course folle. Nuit insensée, tantôt colorée ou sombre, papillons multiples attirés par la lumière vertigineuse qui, pourtant, pourrait lui être fatale. Cette addiction des mots me hante et m'anime positivement parfois. Les mots s'opposent, donnent cohérence ou incohérence. Si seulement mots et mots devenaient harmonie et apaisement. Mon esprit est addict de ces mots qui virevolent dans mon corps entier. Parfois, quelques lignes de poème décrivent une harmonie dont je rêve le temps d'un instant. Un instant seulement, me voilà apaisé. Mais toutes ces phrases, je me les répète en espérant faire mienne, ma vérité. Mais déjà, l'addiction est de retour.
Merci Géraldine pour ce chouette poème. Nous allons écouter à présent Cédric et Jacqueline, soignantes au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de l'hôpital de Morlaix, rencontrés lundi dernier.
Fauteuil VIP. L'invité de Micro Standard.
Bonjour, nous sommes au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, le XAPA de Morlaix, en compagnie de Madame Jacqueline Bourbigaud, éducatrice spécialisée, et de Monsieur Cyril Coupry, infirmier.
Pouvez-vous nous présenter la mission du XAPA et la population que vous accueillez ?
Donc, le XAPA, c'est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc c'est un lieu en fait où on accueille, on informe, on oriente, donc autour de la question de l'alcool, autour de la question des stupéfiants, mais aussi autour de ce qu'on appelle les addictions sans produit, c'est-à-dire tout ce qui peut être en lien avec les nouvelles technologies, mais aussi les jeux de hasard et d'argent. L'équipe du XAPA est composée d'une équipe infirmière, psychologue, assistante sociale, médecin, secrétaire. Ça, on va dire que c'est la mission plutôt du soin du XAPA. On a une autre mission très importante qui est la mission de prévention. On va beaucoup dans les établissements scolaires à la rencontre des jeunes. On met aussi en place des formations. Et on anime aussi sur Morlaix un collectif qui s'appelle le collectif de l'entrefaite, où on essaye, à travers les manifestations festives qui se déroulent sur Morlaix, d'être là pour faire de la prévention. Au XAPA aussi, on est très soucieux d'accueillir l'entourage. Donc, on a une collègue à nous, psychologue, qui peut accueillir l'entourage, c'est-à-dire les parents qui peuvent être inquiets, soucieux par rapport à leurs jeunes, mais aussi parfois les conjoints, les conjointes, les frères, les sœurs. Les consultations au XAPA sont gratuites. On garantit la confidentialité des entretiens. Et à part le site de Morlaix, on est aussi tous les mercredis sur le site de l'Andivisio, à l'espace Quéguinaire, et aussi tous les lundis à Carhaix, au CMP, en attendant d'avoir d'autres locaux sur Carhaix.
Pour vous, que signifie l'addiction et pouvez-vous nous en citer les principales et les plus récentes ?
Donc la signification de l'addiction, bah c'est en fait quelqu'un qui est addict, c'est quelqu'un qui à un moment donné, il y a à y voir avec la question de la dépendance. Donc nous on fait référence à une définition de la dépendance peut-être qui nous aide à situer ce qu'est l'addiction, c'est-à-dire que en fait être dépendant c'est avoir perdu la liberté de s'abstenir. Ça veut dire qu'à un moment donné quand on est dépendant on n'a plus la liberté de dire oui ou de dire non à un problème ou à un comportement, parce qu'effectivement la question suivante c'est citer les principales. Effectivement nous ici on est comme je le disais tout à l'heure plutôt sur la question de l'alcool, des stupéfiants et des addictions sans produit, mais il peut y avoir aussi des addictions au sexe, il peut y avoir tout ce qui est troubles alimentaires, c'est aussi à mettre dans le domaine des addictions. Nous ici en tout cas au XAPA de Morlaix on est uniquement sur alcool, stupéfiants et drogue sans substance. C'est une notion assez nouvelle, hein, cette notion d'addiction comportementale et d'addiction au sens large. Pendant longtemps, on a plutôt été sur la question des produits. Il y avait l'alcool, il y avait les stupéfiants, il y avait des réseaux différents, d'ailleurs, pour soigner selon que les gens étaient en difficulté avec l'alcool ou les drogues illicites. Avec la question de l'addiction, en fait, ça permet de prendre la personne dans sa globalité et d'avoir une approche qui est beaucoup plus généraliste que si on fait une entrée par produit, en fait.
Et avant, on parlait de toxicomanie ou...
Voilà, tout à fait. C'est la grande évolution. C'est vrai qu'avant, il y avait les toxiques, entre guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif en plus quand on dit ça, il y avait d'un côté les toxicomanes et d'un côté les alcooliques, avec des circuits de soins qui étaient vraiment complètement différents. Et avec l'évolution des pratiques, et ben, effectivement, on s'est rendu compte que les personnes pouvaient aller d'un produit à un autre, pouvaient être polyconsommateurs, et qu'il était effectivement plus judicieux de parler d'addiction au sens large et de les accueillir dans un même lieu, plutôt que de dire à une personne, ben là, pour ton problème d'alcool, tu vas aller là, mais ton problème de cannabis ou d'héroïne, tu vas aller à un autre endroit. Vraiment, ici, au XAPA, on accueille la personne dans sa globalité, et ça va bien avec l'équipe pluridisciplinaire dans laquelle on est, en fait.
Quelle est la frontière entre le plaisir et l'addiction? Et comment l'expliquez-vous de façon préventive?
Je crois que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'effectivement, les personnes qu'on peut rencontrer, qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient adultes, les produits, elles ne les utilisent pas pour se faire du mal. Elles les utilisent pour se faire du bien. Et je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment très, très important pour nous, quand on accueille les personnes ici, en première intention, de savoir qu'est-ce que le produit leur apporte en positif. Parce qu'autour d'eux, leur entourage pointe toujours les dangers, ce qui ne va pas bien, les risques qu'ils prennent. Mais à un moment donné, ça, je pense que les personnes, elles le savent bien, comment elles se mettent en risque, comment elles se mettent en danger. Et de pouvoir avec elles, effectivement, cerner en quoi le produit est positif et en quoi le produit apporte du plaisir, c'est vraiment pour nous très important. Parce que c'est pas tant le produit qui pose problème, en fait, c'est l'usage dans lequel est la personne. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir une différence entre, aux jeunes que je peux voir, parce que je vois quand même pas mal de jeunes ici qui consomment du cannabis. C'est effectivement pas la même chose de consommer du cannabis systématiquement le soir pour s'endormir, et puis de fumer tous les 3 mois à l'occasion d'une fête à un pétard avec ses amis. Bon, c'est vrai que le produit, il est illicite, il faut le repréciser, mais n'empêche que dans l'usage, c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment très très important pour nous d'aller vérifier ça. Après, ce qu'on se rend compte quand même, c'est que la question du plaisir, très vite, elle va quand même disparaître, parce qu'à partir du moment où il y a de l'addiction, il y a de la souffrance. C'est-à-dire que nous, les personnes qu'on rencontre et qui sont dans une situation d'addiction, j'ai envie de dire que le plaisir, il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de prendre le produit pour plus être mal et non pas pour être bien. Parce qu'au début, effectivement, il y a eu cette relation plutôt positive. Mais de toute façon, à un moment donné, quel que soit le produit, moi, je suis convaincue qu'il y a tous les effets qui étaient... Moi, je les appelle les effets qui n'étaient pas prévus au programme. Donc de toute façon, à un moment donné, il va y avoir des conséquences qui vont être négatives. Et quand vraiment quelqu'un est dans une situation d'addiction, c'est la souffrance qui va être en avant.
Y a-t-il un âge plus favorable aux addictions ?
Voilà, ce qui est important, c'est la précocité des consommations. C'est vrai que plus on va avoir un usage précoce de produits ou plus on va avoir une conduite addictive tôt, plus on va risquer d'être dépendant. Ça, c'est vraiment important. Après, je pense qu'on est tous concernés tout au long de notre vie, en fait. Ça dépend un peu des éléments de vie qui vont parvenir.
Être addict, est-ce héréditaire ?
Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'il y a aussi un facteur social qui est très important. C'est-à-dire que, il y a la notion d'environnement. Et c'est vrai que quand on grandit dans une famille où il y a des consommations, je pense bien souvent à l'alcool, parce que c'est ce qu'on voit quand même le plus souvent, c'est vrai que le produit est considéré comme normal. En tout cas, il est présent dans l'entourage, donc on y fait peut-être moins attention. Et c'est vrai qu'il y a peut-être plus de risques du coup d'être dépendant, d'être addict. Ceci dit, on ne peut pas vraiment parler d'hérédité.
Voilà. Je vous remercie de nous avoir accueillis et de nous avoir éclairés sur ce phénomène qu'est l'addiction.
En tout cas, merci pour vos questions qu'on a trouvées vraiment très très pertinentes. Vraiment, ouais, c'était un plaisir de vous accueillir aussi.
Merci.
Au revoir.
Alors, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le XAPA au 02 98 62 64 02. Leurs coordonnées sont également consultables sur notre site www.stand-arts.org.
Et maintenant, un poème de Noëlla, lu par Karine.
Pas de hasard, pas de cafard, restez sur Microstandard.
Addiction, vieux démon, tu annihiles ma raison. Tu me tiens, m'emprisonne, et ma tête déraisonne. À toi entière, je suis liée, mais comment m'en libérer ?
Faut laisser couler, et puis...
Mangez-moi, c'est le champ des silos qui subit.
joue avec les âmes et le volet de la perfection.
J'aimais beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuches et surtout des pochons solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer l'accueil.
Et toi, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as mangé jusqu'à en faire une indigestion, je crois?
Oui. Après avoir fumé du cannabis pendant 10 ans, j'ai décidé d'arrêter d'en fumer. Le gros problème, c'est qu'il n'existe à ce jour aucun traitement de substitution pour le shit. Alors je me suis rabattu vers un autre traitement, la méthadone, le médicament de substitution à l'héroïne. Au début du traitement, j'étais aux anges. L'effet de la méthadone était puissant et cerise sur le gâteau, je n'avais plus besoin d'acheter du shit. J'étais dans ma petite bulle et je n'avais plus besoin de sortir de chez moi. Je pouvais rester à la maison pour faire tout ce que je voulais, et à cette époque, ce que je voulais, c'était dormir et jouer aux jeux vidéo. Sans m'en rendre vraiment compte, je suis devenu un vrai no-life. Je me levais, je prenais ma méta, j'allumais ma console et je jouais toute la journée jusqu'à tomber de fatigue. Grâce au mélange entre les jeux vidéo et l'effet puissant de la méthadone, je ne m'ennuyais jamais, même si je n'étais presque plus dans le monde réel. Ah, les jeux vidéo. Le jeu vidéo est un média jeune qui a énormément évolué depuis ses débuts. À grands coups d'évolution et de prouesses techniques, on est passé de simples jeux d'arcade en 2D comme Pac-Man à de véritables films interactifs en 3D comme la trilogie Mass Effect, poussant l'immersion du joueur à son paroxysme, la prochaine évolution étant à venir le casque de réalité virtuelle, un objet de rêve pour tous les joueurs aimant se perdre dans des mondes virtuels qui se respectent. Tout était parfait dans le meilleur des mondes, quoi. Sauf que la vraie vie finit toujours par vous rattraper. J'ai tenu ce rythme étrange pendant 3 ans, puis mon cerveau a fait une petite bulle. J'ai dû aller me faire soigner en hôpital psychiatrique. Après 3 ans passés à jouer sans bouger, le tout sous méthadone, mon corps et mon cerveau étaient à bout. J'entendais des voix et je me suis retrouvé en état de psychose aiguë. Message à tous les auditeurs, n'attendez pas 3 ans pour vous faire aider. Depuis, j'ai réussi à stopper entièrement la méthadone, je ne joue plus qu'une heure ou deux aux jeux vidéo et je revis, dans la vraie vie.
Alors, Catel et Bernard, êtes-vous guéri des dérives de la fièvre acheteuse?
Non, malheureusement, pas encore, ma chère Géraldine, car l'achat compulsif, appelé encore surconsommation, se caractérise par des épisodes permanents ou chroniques durant lesquels une personne ne peut réfréner un comportement compulsif qui la pousse à acheter des objets utiles ou inutiles, le plus souvent en plusieurs exemplaires. Mis dans le rang des addictions sans produit, au même titre que l'addiction à Internet ou aux jeux, l'achat compulsif peut devenir une véritable pathologie. Selon une étude de 2007, près d'un tiers des femmes évaluées en plein shopping dans un centre commercial parisien souffraient d'achat compulsif. Pourtant, je ne voudrais pas stigmatiser la gente féminine, car si le phénomène touche 6% des femmes, il atteint quand même 5,5% des hommes. Les femmes achètent des vêtements, des chaussures ou des produits de beauté. Mais elle fera celle qui a plaire, se plaire. Elle choisira avec soin ses produits de beauté et optera pour une garde-robe destinée à la sublimer. Impeccable et jolie tous les jours, telle est sa quasi-priorité. Les dépenses de ses caprices seront maîtrisées, adaptées à son idéologie et destinées à être mises à profit. Les hommes préféreront dépenser leur argent pour acquérir les vêtements aussi, mais également des produits vidéo ou photo ou encore dans l'automobile.
C'est vrai, Bernard, et pour cela, il y a plusieurs causes à la répétition exagérée d'achats compulsifs. La pression médiatique et publicitaire a très certainement favorisé l'apparition de cette addiction. La vague de crédit à la consommation n'a fait que potentialiser cette fascination pour l'acquisition en créant l'illusion d'un pouvoir d'achat étoffé. La mode aussi avec ses collections éphémères en nouveautés et tentantes. Les tablettes et autres smartphones en sont des exemples. L'achat compulsif peut être le reflet d'une dépression cachée, d'un coup de blouse passager et d'une estime de soi pas très valorisée. Il survient souvent en réponse à une fragilité interne, transitoire, plus ou moins consciente. L'objet convoité prend alors le rôle d'un pansement d'âme. L'acquisition de ce dernier rassure, apaise et occupe, mettant de côté les émotions négatives. Selon une étude scientifique, les anomalies neurobiologiques rencontrées chez les acheteurs compulsifs sont similaires à ceux addicts au jeu. Une des molécules concernées par ces altérations à l'intérieur du cerveau est la sérotonine. Typiquement, l'achat compulsif se déroule en plusieurs étapes. D'abord, l'envie d'un objet devient obsédante. L'idée d'une acquisition ne pourra alors être écartée, mue par la peur de manquer, et tous les moyens seront recherchés pour obtenir le bien. Excité, tendu, pressé, le chemin sera ardu. Arrivé à destination, la carte de crédit sera déployée et le summum du plaisir sera activé. Une satisfaction éphémère, mais suffisamment intense pour être ultérieurement recherchée, faisant place à une dépendance à venir, une euphorie dissipée, il n'est pas rare d'éprouver de la culpabilité, voire de la honte. Une honte qui mènera parfois à se cacher ou à mentir. À mesure que l'achat compulsif se répète, la dépendance se crée et il devient difficile de se sevrer.
Et oui, Katel, les conséquences de l'achat compulsif répété ne sont pas des moindres. On peut être coquette et dépensière, mais savoir poser ses limites à ses finances. C'est là un choix. L'acheteuse compulsive vit-elle au quotidien avec ses découvertes et souffre parfois de dettes conséquentes. L'utilisation de crédit à la consommation, parfois solution de facilité, ne fera qu'alourdir la situation. Ces impasses financières pourront être à l'origine d'une grande souffrance. De projets compromis en conflit conjugal, en passant par des loisirs abandonnés et des heures de travail tronquées, telles sont les conséquences de l'achat compulsif sur le quotidien.
Heureusement, des traitements existent. Effectivement, le traitement des personnes pratiquant des achats compulsifs commence par des mesures logiques et pratiques. Avant une virée dans les magasins, il faut bien prendre soin de se séparer de sa carte bancaire et de son chéquier et de reprendre l'habitude de n'avoir que de l'argent en espèces dans son portefeuille afin de donner une vraie valeur à ses dépenses. Il faut ouvrir ses relevés bancaires et consulter régulièrement ses comptes sur Internet et apprendre à mieux gérer son argent en prévoyant une somme à dépenser pour le shopping sans jamais la dépasser. Il est nécessaire aussi de réussir à ouvrir ses armoires, placards et tiroirs afin d'avoir de visu l'ensemble de ses achats pour enfin se rendre compte de son addiction, même si cela peut paraître pénible. Si certains articles sont en grand nombre ou encore si des paquets ne sont pas ouverts, il y a urgence à prendre des initiatives pour un traitement. Il faut penser, en début de mois, où tout semble vous sourire, aux dépenses fixes et obligatoires. En conséquence, définissez-vous un budget plaisir à ne pas dépasser et usez pour des choses qui vous importent vraiment. Ayez le réflexe de faire des économies, histoire de pouvoir mener à plus long terme des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Il faut aussi pouvoir en parler, même si cela est difficile par honte ou culpabilité. Le dialogue avec un proche procure le plus souvent un certain soulagement. Les conseils donnés par quelqu'un qui vous connaît seront également fort précieux. Cette personne proche de vous, une amie, une voisine, une parente, devrait partager vos moments d'achat et ainsi vous mettre face à vos dépenses, au réel et ainsi aussi afin que vous reconnaissiez votre addiction. Enfin, si la souffrance occasionnée par cette addiction est trop importante, si vous souffrez d'un mal-être profond et que les rechutes se poursuivent malgré toutes vos tentatives de stopper ce comportement, il ne faut pas hésiter à consulter et entreprendre une psychothérapie comportementale et cognitive dont l'efficacité dans ce trouble a fait ses preuves. Ce contact avec un professionnel de santé ne peut être que bénéfique et cette psychothérapie peut être complétée par la prise d'un antidépresseur pour mettre à son profit les chances de sortir de cette addiction.
Merci Katel et Bernard pour cet excellent dossier sur les achats compulsifs. Maintenant, vous écoutez le micro-trottoir de Noëlla.
Bonjour monsieur, vous auriez 2 minutes pour répondre à quelques questions?
Oui, bonjour, oui.
Oui. Absolument. Alors, pour vous, que signifie addiction?
C'est une maladie, quelque part. C'est une personne qui ne peut pas s'empêcher, justement, de faire quelque chose.
Ah ben, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer, que c'est plus fort que soi, et qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, qu'on a besoin de faire. C'est le jeu, ça peut être la boisson, ça peut... Enfin voilà, je pense que c'est ça, oui.
Addiction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler si ça se fait tout seul. C'est un truc qu'on a besoin de faire. Pour moi, c'est ça, l'addiction.
L'addiction, c'est être accro à l'alcool, le tabac, les jeux.
D'accord. Pour vous, est-ce un problème?
Oui, c'est à certaines addictions, je pense qu'éventuellement, ça peut être un problème. Notamment, je pense aux jeux, surtout au jour d'aujourd'hui, avec la crise actuelle. Je pense que ça peut être un sérieux problème.
Ah oui, je pense que c'est un problème parce que ça peut emmener les gens très loin, ceux qui sont frappés d'addiction, voire même à une issue fatale.
Non. Pour certaines personnes, c'est un problème parce que ça, en fonction de l'addiction qu'on a, ça pose problème. Par exemple, les jeux d'argent, ça a mis certaines personnes dans le rouge. Pour d'autres, par exemple pour l'alcool, ça a pu être mortel pour certaines personnes. Donc pour moi, l'addiction est un problème pour certains cas.
Ça a été
un problème.
Oui.
Vous avez eu une addiction.
Oui.
Et
à l'alcool.
À l'alcool. Et vous avez réussi à combattre.
Ah ouais, avec du mal.
Et vous avez eu de l'aide?
Non, pas trop, un peu, mais j'ai arrêté tout seul.
D'accord. Et vous, alors, êtes-vous accro ou pas accro?
J'ai été accro. Je me suis soignée par moi-même, mais j'ai été accro.
Et oui. Si c'est pas trop indiscret, à quoi ou...
Au jeu. Et j'ai réussi à me soigner par moi-même, oui. Oui, parce que justement, je me suis rendu compte que j'emmenais ma famille, c'est surtout le fait d'emmener ma famille au fond du gouffre. Et c'est ce qui m'a fait réaliser qu'il fallait que je me soigne. Et je me suis soignée par moi-même, voilà. Je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que voilà, mais...
Êtes-vous accro à quelque chose?
Je suis accro au modélisme, on va dire au modélisme. J'adore les maquettes et j'adore éventuellement faire les brocantes justement pour trouver des maquettes à des justes prix.
Ça a été
un problème.
Oui.
Vous avez eu une addiction.
Oui.
Et
à l'alcool.
Et vous avez réussi à combattre.
Ah ouais, avec du mal.
Et vous avez eu de l'aide?
Non, pas trop, un peu, mais j'ai arrêté tout seul.
D'accord, ouais. Tout seul?
Oui.
Ça, c'est ce qui s'appelle avoir de la volonté?
Non.
D'accord. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Ah, addiction, quand tu nous tiens. À quoi sert le jeu quand t'es plus rien? Les casinos, c'est pour les gogos. Jeu à gratter, quand tu nous tiens. Les démons du jeu ne mènent à rien. À la déchéance ou à la fin. Se faire harakiri, comme dirait Titi. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais ça y contribue grandement. L'argent donne pouvoir à tous ces gens de la haute, comme disait maman. Les paillettes des chaînes de télé ne servent qu'à devenir tarés. Une vie bascule pour 100 euros. Merci, l'huissier.
Jeune âge dans la cartomancie, par le biais d'une mère voulant connaître l'avenir et côtoyant les cartomanciennes, je me suis rendue accro au tirage de cartes dès mes 18 ans. Et depuis 33 ans, je ne peux m'empêcher de me tirer les cartes toutes les semaines, voire tous les jours. Mes questions varient, allant de questions familiales en questions politiques ou médicales. Cette addiction folle est venue d'un cadeau de ma mère pour une voyance en direct le jour de mes 18 ans par une cartomancienne renommée de la capitale. Celle-ci, terminant son tirage, a dit à ma mère « Votre fille aura besoin de votre aide, elle est plus forte que moi ». Et en la quittant, elle m'a conseillé d'apprendre à tirer les cartes avec un jeu de 32. Depuis 33 ans, j'étudie le futur dans le silence de mon alcôve, le jour comme la nuit, addict de mon jeu de 32 et ne pouvant vivre sans.
Pour rompre le silence, je fais appel à l'écoute de la radio. Dans mon intimité, je suis continuellement branché aux messages musicaux, d'informations du monde, d'échanges d'opinions, de confidences d'auditeurs qui comblent ma solitude. La radio, c'est 7 jours sur 7, jour et nuit, le téléphone proche de moi. Je me renferme dans une dépendance à des programmes que je ne maîtrise pas.
Balai, je te hais, mais quand je te vois, je ne peux me passer de toi.
J'ai un courrier de la gendarmerie nationale. Une convocation réglementaire pour un régiment parisien. Durée un an. Train, métro, RER. Nous voici arrivés dans un village de la Marne. Arrivés à la gare, la ridelle du camion s'ouvre et nous voilà embarqués pour une nouvelle vie. Militaire, celle-là. Un passage chez le coiffeur. Coupe de cheveux 9 mm, s'il vous plaît. Puis le paco. Un petit supplément de cartouches de Gauloise Filtre, des troupes. Est-ce le début de l'addiction au tabac ? Pour moi qui n'ai jamais fumé, arrivé dans la chambre, je distribue un paquet de cigarettes à chacun des occupants. Au bout de quelques semaines assez hardes, le droit à la sortie bistrot, Cronenbourg. Ah, double addiction. Naturellement, si vous êtes au courant de la maladie, vous évitez la consommation de ces produits. Car oui, l'addiction est bien une maladie qui, comme un aimant, vous attire, comme une hypnose vous guide un peu malgré vous. Vous me dites qu'il faut falloir une sacrée dose. C'est pas une sacrée dose qu'il faut, mais la dose.
Merci Denis. Et pour terminer, on écoute le billet d'humeur de Thierry.
Analogique ou virtuel ? Gutenberg ou Bill Gates ? Archimède ou Edison ? Ordi ou papier ? Vaste question, vous allez me dire. Sujet hautement philosophique à mes yeux. Il faut savoir que le mot addiction s'installe doucement en France dans les années 80. L'addiction est partout de nos jours. Alcool, oups, j'ai le hockey. Drogue, 22 volets le flic. Tabac, allez une petite malbiche. Sexe, le porno et des bobos, comme dirait Renaud. L'addiction est partout de nos jours. Règne du capitalisme, les riches s'enrichissent et les pauvres n'ont qu'à se taire et payer. C'est navrant, c'est débile, c'est grisant. Mais revenons à nos moutons d'Ouessant, où j'ai vécu pendant 8 ans. Période de mes premiers émois amoureux et informatiques, grâce à mon fidèle Atari 520 STF, ordi que j'ai gagné à la sueur de mon front. Pendant les vacances d'été, quand les petits copains allaient se baigner. De nos jours, c'est la facilité. Tout juste si les nouveau-nés ne naissent pas avec un téléphone portable à la main. Mais enfin ! Les stupéfiants, j'y ai pas goûté. Vaut peut-être mieux pour moi, il me reste tabac. Je ne m'aventurerai pas sur ce sujet, par respect. Quant au jeu, je parle en connaissance de cause. Le jeu, c'est des impôts en plus. Merci pour cette célèbre société que je ne citerai pas. Cela n'engage que moi. Venons-en à l'addiction au porno. Il détruit la relation femme-homme. Les êtres humains deviennent un objet sexuel avili. Je pense que les jeunes devraient en être préservés et écartés. Le porno, t'en as vu un, tu les as tous vus. En guise de conclusion, les addictions sont omniprésentes dans notre société. Ne tombons pas dans les psés. Disait le curé, mea culpa, votre serviteur Thierry.
Got a good reason.
voilà, cela fait maintenant 3 mois que l'équipe de Micro Standard est accro à cette émission. Elle promet de se faire soigner et reviendra en pleine forme pour une nouvelle aventure radiophonique.
Merci à tous les addicts de la radio RNB d'être à notre écoute. Retrouvez-nous aussi tous les premiers samedis du mois sur RNB à 19h10 et sur notre site internet www.standard.org.